Bonsoir, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Nous avons ce soir l'honneur et la chance de recevoir Cyril Holtz. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors Cyril est ingénieur du son, mais plus particulièrement, alors je ne sais pas comment on appelle ça.
On appelle ça mixeur.
Vous êtes mixeur.
Mixeur.
Essentiellement mixeur dans les films.
Exactement.
Combien de films à votre actif?
Ça c'est une très bonne question, je dirais... Plus d'une cinquantaine, je pense.
Oui, au moins.
Ouais.
Oui, parce que j'ai vu une liste impensable.
C'est très concevable.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette profession?
Alors, à vrai dire, rien ne me prédestinait à cette profession, puisque je n'ai pas fait du tout, au départ, d'études qui correspondaient à ça. Je pense que, comme tout étudiant un peu perdu, je suis sorti du bac et j'ai fait une licence d'économie. Donc, rien à voir. Et j'en ai oublié un peu de préparer mon avenir professionnel. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé en face de problèmes d'économie, de choses qui ne m'intéressaient finalement pas tellement. Et je me suis dit, il serait peut-être temps que maintenant, je fasse ce qui me plaît. Donc, j'ai une démarche très, très terre-à-terre, très pragmatique. Je me suis dit, voilà, alors qu'est-ce que j'aime? Il se trouvait, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, il se trouvait que j'aimais le son, mais c'était comme ça, une espèce d'image, de choses comme ça pour moi, qui j'en connaissais pas du tout la pratique, etc. J'aimais le son, j'adorais le cinéma, puisque déjà en fac, j'allais beaucoup au cinéma, et j'aimais les petits boutons. Je ne sais pas d'où ça vient, puisque mes parents n'étaient pas du tout dans ces domaines. Et voilà, et je me suis dit, bon, je vais tout faire pour arriver à être ingénieur du son. Donc, je suis allé, je me souviens, au CIDJ, là, à côté de la Tour Eiffel, et j'ai regardé toutes les formations qui étaient proposées pour devenir ingénieur du son. Et il y en avait deux qui ont attiré mon attention, la FEMIS et Louis Lumière. Je ne pouvais pas tenter les deux concours en même temps parce que ça faisait beaucoup de travail, surtout que je continuais l'économie à côté. Donc, je me suis décidé pour la FEMIS, qui me paraissait un peu plus littéraire et plus correspondre à ce que j'étais, à ce que j'aimais. Et puis, j'ai travaillé aussi avec un ingénieur du son, qui était aussi compositeur, qui s'appelle Jacques Cassard. Et voilà, j'ai mené les deux en parallèle, et j'ai eu la FEMIS. Donc, j'ai fait mes études là-bas, qui est une école de cinéma. Voilà, je me suis spécialisé dans le son au cinéma. Et dès la deuxième année, puisque la première année, c'est un tronc commun, on aborde tous les métiers du cinéma. Et dès la deuxième année, quand je me suis spécialisé dans le son, j'ai adoré le mixage. Et voilà, et depuis, j'ai passé mes jours et mes nuits dans les studios de mixage de cinéma.
Est-ce que la FEMIS, c'est un plus finalement pour arriver à entrer dans le corporatisme du cinéma français? Je dis bien cinéma français.
Ouais, définitivement, oui. En tout cas, en son. À part la façon traditionnelle, c'est-à-dire de faire de l'assistanat assez longtemps et d'y arriver, parce que c'est pas facile, il y a finalement assez peu de monde, la FEMIS, c'est l'une des voies les plus... ou la certitude, la quasi-certitude d'avoir un métier en sortant, c'est vraiment une école formidable pour ça. Vraiment, j'ai rien à dire. On a les moyens, on a des très bons intervenants qui sont eux-mêmes des professionnels du cinéma. Moi, ça a été une chance formidable. Et puis, il y a ces moyens gigantesques mis à la disposition des étudiants. Quand on sort de la fac, comme moi, à cette époque, et qu'on se retrouve là-dedans, dans une espèce de... C'était magique, c'était enthousiasmant, ouais, vraiment. Non, là, sur la FEMIS, j'ai vraiment... ça a été ma chance, vraiment, de l'avoir, en tout cas, de réussir le concours. Et justement, ça reste... je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoles comme ça, mais ça reste quand même relativement ouvert à des gens d'horizons très différents. Donc voilà, j'ai eu cette chance.
Est-ce que vous avez pu travailler à l'étranger, en dehors de travailler avec les réalisateurs français?
J'ai travaillé avec des réalisateurs étrangers, mais finalement, la pratique de mon travail s'est vraiment concentrée en France, quoi. Parce que finalement, il y a assez peu de pays en Europe qui ont vraiment une activité cinématographique forte. On connaît les systèmes de subventions en France qui permettent au cinéma d'avancer. Et c'est pas le cas partout. Donc l'activité cinématographique française est quand même très développée par rapport à d'autres pays. Donc en général, même les étrangers, la France est connue pour disposer de moyens en post-prod assez conséquents. Donc les étrangers viennent relativement souvent en France. Mais j'ai travaillé avec des réalisateurs étrangers comme Amos Gitaï, Ouais, j'ai peu, en fait, à part, parce que la Belgique, forcément, il y a des liens assez étroits, il y a des coproductions souvent entre la Belgique et la France, etc. C'est pas très exotique, hein, mais ça m'est arrivé de travailler en Belgique. À part ça, non, c'est pas, on peut pas dire qu'il y ait des ponts très évidents entre la France et les autres pays, jusqu'à maintenant.
Et pas avec les Américains?
Alors avec les Américains, c'est des relations un peu compliquées. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes en France sur à raison d'ailleurs, sur l'industrie cinématographique américaine, parce qu'il s'agit vraiment d'une industrie dans ce cas-là. Il y a beaucoup de complexes aussi. Et dans l'autre sens, alors je ne peux pas être aussi précis, mais je pense c'est pareil, on a des relations, on a un rapport à la France assez ambigu. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des bons techniciens, je pense, qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes. Mais honnêtement, je pense quand même qu'il y a un certain sentiment de... Ils ont définitivement une espèce de complexe de supériorité. On peut pas, ils font beaucoup plus de films que nous, etc. Surtout à Los Angeles. Les liens restent vraiment concrets dans le cadre de coproduction franco-américaine où ils viennent faire une partie de la post-production en France, etc. Donc ça reste limité. Ça commence à venir, j'ai l'impression. C'est-à-dire que maintenant, ils viennent beaucoup en Europe, notamment en Angleterre, puisque c'est un pays anglo-saxon, c'est plus facile pour eux. Et il y a quelques films qui commencent à se faire en partie en post-prod en France.
Alors avant de parler un petit peu technique, pour nos auditeurs, parce qu'il y en a quand même beaucoup comme moi qui n'y connaissent rien,
Ouais.
qu'est-ce qu'un mixeur exactement?
Ben, un mixeur, en fait, c'est une femme ou un homme qui arrive un peu à la dernière étape de la bande-son d'un film. C'est-à-dire que juste avant, il y a les sons qui ont été enregistrés sur le plateau, voilà, pendant le tournage. Il y a une personne qu'on appelle le monteur son qui a été chercher d'autres sons, les sons manquants qui ne sont pas enregistrés puisque l'essentiel sur un plateau de tournage c'est d'enregistrer les dialogues. À part ça, on essaye de s'affranchir de tout le reste. Donc il faut recréer cet univers, que ce soit les sons d'ambiance, les effets, les choses comme ça. Et bien sûr les musiques. Il y a un musicien qui est un compositeur qui va venir composer une musique. Et en fait, le mixeur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il a tout ça qui lui arrive sur une grosse console et il va mélanger tous ces sons de façon à produire la bande sonore finale du film. C'est un peu comme en musique, c'est-à-dire où le mixeur d'un titre musical a d'un côté je sais pas, le saxophone, d'un autre la batterie décomposée, les violons, le chanteur, etc. Et d'une matière brute, en fait, il va mixer, il va doser chaque élément les uns par rapport aux autres, et puis il va en résulter le titre tel qu'on l'écoute à la radio ou sur un CD, quoi.
Parlez pas de radio en ce moment. Alors, ce que je voulais savoir, c'était par exemple entre un mixeur français et un mixeur étranger tel que l'on voit en Angleterre ou aux États-Unis ou même en Belgique, est-ce qu'il y a des méthodes différentes de travail?
Alors là aussi, je pense qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de méconnaissances. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement, il n'y a pas de grosses différences. C'est-à-dire que on a les mêmes outils, on a finalement les mêmes approches souvent. En revanche, je pense qu'il y a des petites différences. C'est-à-dire que déjà, peut-être qu'en France, le mixeur, il y a souvent un mixeur, voire deux. Pour mixer l'ensemble du film. Aux États-Unis, ils sont plusieurs, souvent. On va dire que c'est beaucoup plus spécialisé, c'est-à-dire qu'il y a un mixeur qui va s'occuper exclusivement des effets sonores, un autre de la musique et des paroles, et un autre de ce qu'on appelle les ambiances ou les atmosphères, un autre qui va mixer les bruitages, et à la fin, on va dire qu'il y a un mixeur qui va s'occuper de redoser tout ça tout ensemble. Mais la grande différence, c'est que là-bas, ils ont souvent ce qu'on appelle un sound supervisor, qui va assurer la cohérence du son sur tout le film, du tournage jusqu'à la post-prod. Donc, il sera l'interlocuteur privilégié du réalisateur. En France, on va dire, c'est peut-être un petit peu plus artisanal, quoique maintenant, avec la complexité des films, on tend quand même à beaucoup faire comme dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire ce qu'on appelle des prémix. C'est-à-dire, au fur et à mesure, mixer d'abord par famille d'éléments sonores pour arriver, par un procédé d'entonnoir, à mixer le film tel qu'il est dans sa forme finale.
D'accord. Alors, j'ai des questions de Romain Zemiri. Bonjour Romain. Il nous dit, quel rapport, s'il y en a, entretenez-vous avec le chef opérateur du son, le sound designer, le réalisateur et le dire prod?
Alors, en fait, alors dans l'ordre avec l'ingénieur du son, en fait, c'est deux étapes dans le temps qui se succèdent. Donc, moi, je n'interviens pas directement sur les plateaux. En revanche, c'est bien d'avoir un dialogue avec l'ingénieur du son de façon à ce que ce qu'il enregistre sur le tournage soit cohérent par rapport à ce que nous, on en fera après. J'insiste aussi sur le fait que de plus en plus, et ça c'est très important, les différents acteurs de la chaîne du son dans le cinéma commencent à se parler et interagir ensemble, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que chacun se refilait le bébé et après moi le déluge. Donc ça, c'est très dommageable, finalement.
Alors on disait ça, moi j'ai entendu parler de cela justement, où l'ingénieur du son plateau, en fait, se désintéressait de ce qui se passait après parce qu'il n'était plus payé.
Non, je pense que ce n'est pas, pas des raisons d'argent, c'est parce que c'est souvent des raisons de temps, c'est que c'est des gens très occupés, ils enchaînent les tournages et ils ont souvent, voilà, pour des histoires de contraintes de temps, assez peu le temps d'entrer en contact avec le monteur son et le mixeur, et nous pareil, hein, je veux dire, tout le monde est fautif dans l'histoire. Donc voilà, le lien n'était pas bien assuré. Ce qui n'est pas le cas justement aux États-Unis, puisque là-bas ils ont un sound supervisor, sound designer. En France, les termes, on les mélange un peu. Il n'y a pour l'instant pas vraiment ce rôle en France, mais en fait, cette personne-là est censée justement assurer la cohérence du son, à la fois une cohérence technique, une cohérence artistique. Après, bien sûr, il en réfère, il est en rapport avec le réalisateur, mais voilà, cette personne existe, alors qu'en France, elle n'existe pas. Donc maintenant, on essaye de tisser des liens et de se parler, nous, de façon à ce qu'enfin on parle de la même chose et on ne se dégage pas de tous les problèmes qui peuvent arriver avant ou après, quoi. Donc voilà, ça c'est en train d'évoluer et ça c'est bien. Voilà, ça c'est un peu les rapports qu'on a avec l'ingénieur du son qui maintenant passe en mixage. Moi je sais que j'aime bien aller sur les plateaux maintenant, voir un peu, discuter. Bon, après c'est toujours un peu délicat parce qu'on est là en fait pour on ne peut pas intervenir directement, mais on peut se mettre d'accord. Surtout que maintenant il y a des nouveautés techniques qui permettent justement de commencer un travail pendant le tournage et de le perpétuer au fur et à mesure de la chaîne du son. C'est vraiment enthousiasmant. Maintenant, on peut vraiment rester en rapport et faire des choses qui apportent à la qualité et qui sont très, très importantes, quoi, vraiment. Avec le réalisateur, ça, c'est l'une des grandes des aspects formidables de mon métier, c'est qu'on est vraiment en contact étroit, puisque le mixage se passe en général en petit comité, donc le réalisateur est toujours là avec nous, enfin toujours... une grande partie du temps, et il y a un vrai dialogue artistique sur ce qu'on va faire avec lui. Après, il y a des méthodes différentes, il y a des réalisateurs qui aiment bien rester tout le temps, d'autres qui passent quand les bobines sont mixées ou quand une séquence est mixée. En tout cas, il y a un vrai dialogue avec le réalisateur, et ça c'est formidable d'avoir des relations aussi privilégiées avec les réalisateurs. Avec le directeur de production, en fait, maintenant, il y a deux postes en fait, dans les directeurs de production. Il y a les directeurs de production qui s'occupent de tout jusqu'à la fin du tournage et les directeurs de post-production qui sont là pour être notre interlocuteur. C'est eux en fait, qui font l'interface entre la production et les techniciens et même le réalisateur. Donc du coup, on a souvent affaire à eux pour des histoires... dessous, de planning, de aussi technique, c'est-à-dire qu'un directeur de production maintenant et surtout de post-production se doit d'être un peu au courant des différentes techniques qu'on utilise, ce qu'on fait, pourquoi il comprend les choses, quoi.
Cela vous arrive d'être en conflit justement avec le réalisateur ou avec l'opérateur, enfin avec l'ingénieur son plateau?
Oh, conflit, c'est un bien grand mot. Il peut y avoir des désaccords, mais il ne faut pas oublier que nous, on est là pour satisfaire le réalisateur. Je veux dire, ça, c'est très clair. Un réalisateur a des demandes artistiques et c'est à nous d'utiliser les outils dont on dispose pour satisfaire ces demandes. Donc c'est notre métier fondamentalement, c'est ça. Après, il y a plein de contraintes, à la fois de temps, des contraintes techniques, des contraintes même artistiques. Et des contraintes, on est aussi hautement dépendant forcément de ce qui a été fait avant, c'est-à-dire de ce qui a été enregistré pendant le tournage, donc de l'ingénieur du son lui-même. Oui, il peut y avoir des désaccords, mais ça se résout toujours. Enfin, je veux dire, les gens quand même comprennent les problèmes des autres, etc. C'est très rare qu'il y ait eu des conflits majeurs, ouais. Enfin, de mon côté, quoi. J'ai jamais eu... Ça n'a jamais été cataclysmique, quoi.
Alors, encore une petite question de Romain Zemiri. Un peu plus technique, utilisez-vous au mixage final ces horribles micro-cravates au son dégoûtant et plein de bruit de frottement et en plus bas en phase avec la perche à cause des systèmes HF, plein de bruit de fond.
Bon,
voilà.
Alors, ça c'est dit, au moins c'est clair. Bon, il faut bien avouer que le raccourci, on l'appelle souvent le micro HF parce qu'on utilise la transmission HF surtout pour les micro-cravates. C'est un peu notre hantise, effectivement. Moi, personnellement, je ne les utilise pas, sauf en post-synchronisation pour raccorder avec les micros qui ont été utilisés pour le tournage. Mais bien sûr, les ingénieurs du son du tournage les utilisent. Les bons ingénieurs du son essayent de les utiliser le moins possible, parce que c'est vrai que c'est un pis-aller. Mais c'est un pis-aller, malheureusement, qui s'avère nécessaire dans certains cas, puisque les ingénieurs du son ont énormément de contraintes. Et comment vous faites quand un plan est filmé en plan large, avec la caméra qui prend tout, où on ne peut pas placer une perche, parce que le seul moyen d'enregistrer avec un micro conventionnel, c'est qu'il soit au bout d'une perche, et de percher les comédiens. On peut pas planquer, on peut dans certains cas, mais on peut pas planquer des micros partout et attendre que les acteurs se déplacent entre chaque micro. Qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Rien. Donc, on va dire que c'est malheureusement souvent un mal nécessaire. On essaye, et nous, en tant que mixeurs, on râle toujours parce qu'on déteste ça, forcément. C'est pas beau comme l'a dit votre auditeur, on essaye de les utiliser le moins possible, même en mixage, après en montage son, on essaye de nettoyer au maximum les sons pris par la perche et le micro normal, mais dans certains cas, on ne peut pas faire autrement. Alors maintenant, heureusement, avec les machines d'édition type Pro Tools, on arrive à faire des miracles en termes de remise en phase, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de remise en phase de CHF par rapport à la perche principale. Donc on arrive à mélanger les deux, à apporter une présence suffisante de façon à doser au minimum le HF quand il est nécessaire. Mais je ne vais pas vous dire que j'aime pas ça, hein. je suis comme tous les mixeurs. Malheureusement, dans certains cas, on ne peut pas faire autrement.
Alors, question également d'un second auditeur, de Jacques Hubert. Alors, lui qui se pose des questions sur le mix à la prise, il veut connaître votre point de vue.
Alors, qu'on soit bien clair, le mix à la prise n'existe pas vraiment. C'est le mix, à ce moment-là, à la prise, qu'on appelle, c'est vraiment le rôle de l'ingénieur du son. Lui ne peut mixer que les différents micros qui sont sur le plateau pour la prise de son des dialogues. C'est-à-dire que justement, il va mixer la perche avec le HF, etc. Et encore, maintenant, avec les machines actuelles, ces différents micros sont enregistrés chacun sur des pistes différentes. Donc il fait ce qu'on appelle un down mix pour pouvoir écouter à la fois pour le réalisateur au casque et en montage, de façon à ne pas se traîner pendant très longtemps des gros blocs de 6 pistes. Il fait un premier mixage, forcément, puisqu'il dose, mais il n'y a pas de vrai mixage en direct. C'est-à-dire que les sons qu'on entend sur les films ne sont pas présents sur le tournage. Il y a pas, quand il y a des coups de feu qui sont tirés, ce n'est pas les vrais coups de feu. Nous, on en rajoute après, etc. On peut utiliser dans certains cas ce qui a été fait sur le plateau, mais en soi-même, ça ne suffit pas du tout. Donc, en cinéma, fondamentalement, le mixage à la prise n'existe pas. C'est pas comme en musique, quoi. C'est très rarement live. Ou alors dans des cas vraiment, des trucs très extrêmes où le réalisateur décide, par exemple, de dire on ne gardera dans la bande-son finale du film que le son du tournage. Mais à ce moment-là, rien n'est rajouté. Alors c'est très extrémiste, hein, c'est-à-dire que on peut se rendre compte très facilement de ce que ça donne quand on écoute. Si on écoutait un film juste avec ce qui a été enregistré au tournage, c'est réduit à sa plus simple expression, c'est les dialogues. Quelques bruits parasites, malheureusement, et tout le reste est vraiment. Il y a assez peu de choses, sauf quand il y a vraiment des ambiances très, très fortes derrière, etc. Mais en général, on essaye au contraire de s'en affranchir pour pas perturber les dialogues. Voilà, par exemple. Un beau coup de vent.
Wow.
Voilà, bah là, voilà, c'est mixage live.
Ah non, je passe.
Non, c'est impressionnant, c'est ouais. La première fois que ça arrive.
Ouais. Ben voilà, c'est pour illustrer notre propos, c'est parfait.
Je ne veux pas vous prendre en défaut, mais vous pouvez donner des noms de films sur lesquels il y a justement ce genre de travail, de mix à la prise.
Ah ben, honnêtement, dans ceux que j'ai mixés, je peux tout de suite vous dire aucun.
Sur des films plus anciens, on n'avait peut-être pas forcément les moyens techniques qu'on a maintenant, les enregistrer en multipiste, etc.
Ouais, alors effectivement.
Quand on avait qu'un Nagra avec deux pistes, il fallait.
Non, mais même avec un Nagra avec deux pistes, le Nagra deux pistes, il date d'il n'y a pas si longtemps que ça, et il ouais. y avait déjà du mixage. Hein. Non, il faut alors remonter vraiment beaucoup plus loin. Et encore, hein, la bande son vraiment du film ne se limitait pas à ce qui avait été enregistré sur le tournage. Il y a toujours eu. Même dans sa plus simple expression, un tant soit peu de mixage fait.
Peut-être,
quoi.
Je pense, ce qu'il veut dire, c'est quand il parle de mixage à la prise, c'est peut-être plus le mixage de tout ce qui est des voix, etc.
Ah, voilà.
C'est-à-dire quand l'ingé son de plateau avec deux pistes pour coucher toutes ses voix, s'il y avait six micros, des micro-cravates et des perches, il fallait que lui fasse un pré-mix.
Absolument.
En tout cas, un pré-mix.
Absolument.
Sur le Nagra, qu'après, un mixeur va récupérer dans
Là,
un
petit là si c'était sur une piste, dans le cas du Nagra mono, par exemple, et ben à ce moment-là, il était effectivement obligé de mélanger. S'il avait plusieurs micros, il était obligé de les mélanger.
D'accord.
Donc, nous, on disposait de ça. Et là, effectivement, il faisait vraiment du mixage en direct. Mais ça ne concernait que les voix.
Ouais,
ça ne concernait pas, bien évidemment, les autres éléments.
Les ambiances, les effets
voilà.
spéciaux, etc.
Donc, ça, c'est effectivement très difficile. Il y a d'ailleurs, les ingénieurs du son, puisqu'ils ont six pistes, c'est beaucoup... Et c'est peu en même temps, donc ils continuent à faire du mélange de différents micros. Par exemple, s'il y a plusieurs comédiens, ils sont bien obligés. Et ils le font. Et là, effectivement, il y a un vrai travail de mixage à la prise. Qui est forcément beaucoup plus risqué, beaucoup plus limité, beaucoup plus... Il y a plein de choses inattendues qui peuvent arriver, donc bon, bah, c'est en direct, quoi.
Ouais.
Effectivement, c'est vraiment du mixage live, là, pour le coup.
Est-ce que tu penses que l'arrivée de la technologie du multipiste, etc., de plus en plus de pistes disponibles pour les ingé-sons de plateau, ça a un peu dévalorisé leur travail, pas dévalorisé, mais est-ce que ça les a un peu placés au second plan, c'est-à-dire qu'ils se contentaient, entre guillemets, d'enregistrer ce qui se passait sur le plateau, et ensuite le bébé était refourgué au mixeur après en post-prod. Est-ce que tu penses que ça les a un peu fait passer à un second plan ou pas?
Écoute, je pense pas, parce que je pense qu'un bon ingénieur du son s'attachera toujours à essayer déjà de commencer par d'avoir une approche très simple et qualitative, c'est-à-dire vraiment d'essayer d'avoir la meilleure qualité possible. Après qu'il le fasse en mélangeant, si, parce qu'il a l'habitude, ou en le séparant, peu importe. En fait, je pense que la clé de ce métier-là n'est pas là. Après, bien sûr, il y a eu des abus, c'est-à-dire que des gens qui se sont éclatés sur des pistes innombrables, parfois inutiles, etc. Mais je pense que le bon ingénieur du son, c'est toujours que le plus important, c'est d'avoir les meilleures voix possibles, les mieux prises possibles. Alors après, quel que soit le moyen qu'il utilise pour le faire, et les outils dont il dispose d'ailleurs... Oui. Eh ben, moi, je lui tire mon chapeau. Voilà, quand il le fait, quand il arrive à mélanger correctement, même des séquences très compliquées, et il arrive à sortir un son impeccable sur deux pistes, voire une, très bien. Si par contre, c'est tellement complexe qu'il est obligé de s'étaler, et nous, après, de faire des choix, etc., ben, très bien aussi, quoi.
On fait avec.
On fait avec. Mais c'est comme tout, je pense qu'il y a eu un tâtonnement, c'est-à-dire que quand ils ont eu 6 pistes disponibles, à ce moment-là, ils se sont dit « bon, génial, je vais pouvoir m'étaler ». Et puis après, il y a peut-être eu des excès, ils sont revenus à des choses plus simples.
C'est l'euphorie, plus simple. C'est un peu un nouveau jouet.
C'est-à-dire que c'est clair que moi, ça n'a aucun intérêt d'avoir, par exemple, une prise de son stéréo au couple, avec un couple situé à 10 mètres dans un endroit, une acoustique qui n'est pas forcément intéressante, surtout... Si le micro principal, c'est-à-dire celui dont on servira en premier lieu, est pas bien placé et qu'on a une prise de son de l'essentiel qui est pas bonne. Donc leur mission, ça reste quand même toujours ça, c'est-à-dire d'avoir une prise de son la meilleure possible sur les acteurs et après le reste c'est du plus quoi, c'est du bonus. Donc je pense que vraiment l'ingénieur du son doit toujours rester concentré sur l'essentiel et en général ils le sont quoi.
Alors une autre question de Stéphane Richard qui demande quelle est votre approche au niveau du mixage de la musique dans un film.
Alors la musique c'est vraiment la chose en mixage film qui est pour laquelle la sensibilité est la plus importante. C'est vraiment l'élément, déjà, qu'on arrive à mixer de la façon la moins morcelée possible, parce que le mixage film, surtout des paroles, est assez laborieux, c'est-à-dire qu'on est capable de travailler des raccords pendant des heures, de faire tourner des sons en boucle très longtemps, de passer beaucoup de temps sur des tout petits morceaux de film, de faire des marches arrière incessantes pour améliorer la qualité d'un petit passage. La musique est très plaisante à mixer dans le sens où on peut faire des passages plus longs et qui sont vraiment, où là on peut vraiment exprimer ce que veut le réalisateur ou un truc particulier. Donc c'est aussi peut-être l'une des familles de sons où le mixage est le plus empirique qui soit. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de sensibilité et bien sûr de dosage par rapport aux autres éléments sonores, mais il y a vraiment un côté fluide et homogène. Le rôle de Stéphane, là, pour le coup, est très important parce que c'est lui qui va mixer la musique en tant que telle. C'est lui qui va la préparer pour qu'elle soit après intégrée avec les autres éléments. Donc, elle nous arrive ce qu'on appelle en 5+1. Maintenant, les gens connaissent, puisque avec le home cinéma, tout le monde sait ce que c'est que le 5+1. Souvent, soit elle nous arrive en 5+1, c'est-à-dire totalement mixée, soit par famille de sons, par ce qu'on appelle des stems 5+1, c'est-à-dire qu'il va y avoir un stem 5-1, un bloc 5-1 pour les percussions, par exemple, un pour les cornes, qui sont déjà dosés entre eux, mais qu'on aura le loisir de pouvoir redoser en fonction des autres éléments qu'on a. Et le rapport à la musique, je pense que tout le monde a un rapport à la musique évident, qu'on travaille dans le son ou pas. C'est un rapport physique, c'est un rapport presque tactile, c'est un rapport... C'est un élément absolument prédominant et à la fois parce que c'est un moyen terriblement efficace pour un réalisateur de traduire un sentiment à l'écran, etc. Donc je pense que essentiellement, à la fois avec le téléspectateur et avec nous, on a un rapport, on va dire, intime et passionnel avec la musique. Et je dirais que même... On sait vraiment que le mixage n'a pas ce côté lyrique, etc. C'est pas, on n'est pas des, faut pas non plus, on n'est ppas des artistes, quoi. La sensibilité compte. Et je pense que le mixage de la musique, c'est peut-être là où la sensibilité peut s'exprimer le mieux. Et un sentiment est très facilement transmissible au spectateur à travers une musique. Beaucoup moins à travers une ambiance ou un bruit de pas. Donc voilà, c'est vraiment un point clé du mixage de film, c'est la musique.
Vous vous sentez dans ces cas-là, vous avez dit non, pas artiste, mais plus artiste ou plus technicien ?
Le mot d'artiste, peut-être artisan, est plus approprié. Le mot artiste me gêne un peu parce que c'est... Non, on n'est pas des artistes. Je pense, en revanche, que les sensibilités des différents mixeurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est tous différents, peuvent vraiment s'exprimer. Il y a un aspect de produire quelque chose. Le son, c'est de la matière. C'est comme autre chose. On finit par... moi, je trouve qu'il y a vraiment des analogies avec la façon qu'on a de façonner, par exemple, un matériau plein ou un matériau vraiment concret, quoi. C'est vraiment une matière sonore qu'on façonne. Donc peut-être qu'il y a des similitudes, mais c'est pas... Non, le terme d'artiste me gêne quand même. On est quand même des techniciens, on a des outils complexes qu'il faut pouvoir gérer. Et vraiment, notre mission, c'est de mettre à profit ces outils dont on dispose et d'en faire quelque chose de parfois de beau, mais aussi d'efficace, quoi. Artiste, je crois pas. Artisan, oui, ça c'est sûr. Technicien, c'est sûr aussi. Et sensible, c'est sûr. Et on y met du cœur. Et ça, c'est important.
Je pense que cela doit dépendre des films, mais combien de temps mettons pour mixer pour un film normal, enfin la moyenne?
On va dire, après, ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs, de la durée du film, de la complexité, des moyens qu'on a. Je dirais, 4 semaines, 4-5 semaines. C'est à peu près le temps qu'on met en moyenne. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent au mixage. On est contraint de mixer plein de formats différents pour la télé, etc. Mais voilà, en gros, c'est 4 à 5 semaines.
Est-ce que les producteurs sont motivés pour donner plus d'argent à tout ce qui est son dans un film ou au contraire, cela se réduit en peau de chagrin?
Disons que je pense qu'un bon producteur, il veut que le film soit le mieux possible. Donc on ne peut pas dire qu'il n'en a rien à faire, ce n'est pas vrai. Il est comme nous tous, il a des contraintes. Il a des contraintes de budget, donc il essaye forcément de minimiser les temps parce que le mixage, ça coûte très cher. On est dans l'équivalent d'une salle de cinéma avec le matériel d'un studio de musique. Donc c'est énorme, ça coûte très cher. Donc forcément, il a des contraintes de budget à faire respecter. Je dirais que la demande est toujours très ambitieuse. C'est-à-dire que surtout maintenant, où il y a vraiment une culture du son au cinéma qui commence avec le home cinéma d'ailleurs, il y a vraiment une demande même des spectateurs à avoir un son spectaculaire, beau, etc. Donc forcément, la demande, et même celle des producteurs, est de plus en plus exigeante. Je ne suis pas sûr que le temps qu'on nous donne soit à la mesure de cette exigence tout le temps. C'est-à-dire que ça devient forcément de plus en plus complexe et on en reste souvent à des temps, à des plannings, on va dire, qui sont restés le même depuis plus de 10 ans. Donc je vais prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire que bien sûr que le temps est un facteur déterminant dans la qualité de la bande-son, parce que plus on y met de temps, mieux ça sera. Après, il ne faut pas non plus s'enferrer. Il y a des situations où le temps est très mal mis à profit. Donc, disons qu'il y a toujours des négociations à non plus finir sur les temps de mixage avec les prods. Je pense qu'elles essayent de maintenir ça dans un cadre raisonnable. Mais voilà, moi, je ne cache pas que c'est dur de négocier souvent le temps qui est nécessaire pour mixer un film.
Vous avez travaillé pour la télévision ou pas ?
Très peu.
Très peu ?
Très peu. Très très peu. Disons que j'ai mixé certains films qui étaient à la fois dédiés au cinéma et à la télé. Donc ils le sont tous par essence, puisque la télé est devenue vraiment la principale source financière du cinéma, donc tous les films passent à la télé, quasi tous. En revanche, vraiment, par exemple, j'ai mixé très peu de téléfilms. Le cinéma est vraiment une partie très privilégiée, et là, je reviens un peu sur ce que j'ai dit juste avant, on dispose quand même de moyens beaucoup plus importants en termes de temps et de moyens techniques, on dispose vraiment de moyens plus importants qu'à la télé. La tendance, notamment aux États-Unis, est en train de se renverser. C'est-à-dire que maintenant, avec les nouvelles séries que tout le monde connaît, 24 heures, etc., il y a des moyens vraiment colossaux, à la fois en termes humains et de temps, qui sont mis à la disposition des gens.
Et pourtant, on dit qu'un épisode américain est moins cher qu'un épisode français.
Alors ça, on donne
comme exemple les experts. 200 000 dollars pour un épisode des experts,
ouais.
Et 1 500 000 pour RIS.
Alors, je connais pas cet exemple. Alors, je sais pas. Honnêtement, alors ça, je sais pas. Si c'est le cas, c'est triste. Parce que, à faire la comparaison, ça va clairement à l'avantage des experts. Mais
ça n'engage que toi.
Et
bon, c'est vrai. Bon.
Moi, je le pense très fort.
Non, mais je dis ce que je pense, effectivement.
Oui,
mais je
on le pense tous.
On le pense tous, quoi. Je pense que les Français seraient plus astucieux Et là, on attaque vraiment un truc de production. Peut-être qu'il n'y a que moi qui pense ça, mais j'en doute aussi. On ferait mieux d'essayer de copier moins et d'être plus originaux et d'être peut-être plus ambitieux dans ce qu'on fait plutôt que d'essayer de copier à tout prix, parce qu'on n'arrive pas à copier.
Il vaut mieux donc, faire plus belle la vie que RIS, quoi, en gros.
À la limite, oui, mais je pense qu'on pourrait faire différent de RIS, de faire des choses peut-être plus ambitieuses, mais en essayant de se détacher de cette espèce de complexe qu'on a par rapport aux Américains. Donc voilà, c'est un peu navrant, mais puis c'est pas à moi de dire ça, je suis pas de producteur, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de produire des choses un peu différentes, peut-être pas avec autant de moyens, ou qui sait, peut-être avec autant de moyens, justement, et de faire ça bien. Mais le point de départ, c'est d'essayer d'être un peu original et de pas copier. C'est difficile de mettre dans une série française les moyens dont ils disposent, par exemple, sur 24 heures. Même en termes de, je vois par rapport en termes de mixage, je me suis un peu documenté là-dessus. C'est énorme, c'est vraiment énorme.
En fait, ils font beaucoup plus attention au son, à la finalité d'un épisode, que ce que font les Français.
Ça dépend sur quoi, mais je pense qu'ils ont complètement intégré le fait que le son, c'est très important, et que le son, c'est, en matière technique, c'est 50% d'un film. Et je pense qu'ils ont très bien intégré la dimension spectaculaire. Je prends un exemple justement d'une série où il y a de l'action, par exemple, et prépondérante, parce que les gens sont en demande de ça. Ils aiment ça. Ça leur plaît. Ça leur plaît autant que de voir des cascades de voitures. Donc, ils ont très bien intégré cette dimension et ils mettent les moyens qu'il faut pour satisfaire ce plaisir qu'ont les gens. En France, en tout cas, dans les séries, j'ai l'impression que ça commence à venir. Je ne suis pas sûr qu'on mette les moyens suffisants. Mais voilà, après, c'est vraiment des choses de production. Moi, je ne suis pas producteur, donc j'aurais tendance à dire, déjà, ce qui ferait du bien, c'est un peu d'audace, quoi. Et c'est pas juste limité au son, quoi. C'est en tout.
C'est au niveau, voilà. Même au niveau du montage.
Voilà, exactement. Et vraiment de pas essayer de copier, copier ce qu'ils font, parce que
lorsqu'on voit les qualités d'image américaines des épisodes, on parle toujours des experts, mais c'est vrai.
Ouais. C'est vrai.
Mais on peut parler de séries plus enfantines comme Superman, etc. Les qualités des images sont exceptionnelles.
Ouais,
ils utilisent énormément de filtres et autres, mais elles sont exceptionnelles.
Elles sont exceptionnelles. Il faut dire aussi une chose, ils savent faire. Même, je veux dire, on a beau dire,
culturellement, ils sont
ils savent faire. Ils savent faire. Les comédiens sont toujours, on y croit toujours. Il y a vraiment, c'est vraiment un pays de cinéma. Ils savent faire. Alors, sans vouloir justement céder à ce complexe qu'on a par rapport à eux, mais indéniablement. Même dans des séries moins ambitieuses, il y a toujours quelque chose. Six Feet Under, par exemple, c'est une série remarquable. Et je pense faite avec relativement peu de moyens.
Mm-hmm. C'est donc, toujours fait dans la même maison.
Ben voilà. mais c'est un vrai renouveau, je veux dire. Et pour une fois, c'est pas le cinéma qui traîne la télé. Ça commence à être l'inverse dans ce domaine. Je veux dire du point de vue scénaristique, du point de vue aussi du langage et de ce qu'on y dit. C'est-à-dire, on commence à avoir moins cette espèce de prédominance morale agaçante, morale et moraliste. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Et du coup, je pense que même les films américains commencent à évoluer, commencent à oser plus de choses que ce qui était, ce que c'était il y a, je sais pas, 6, 7 ans.
Oui.
Mais au son, honnêtement, je pense qu'on est complètement capable d'avoir un son au niveau au niveau de qualité des productions à la fois télévisuelles et cinéma américaines, j'en suis convaincu. C'est le cas d'ailleurs sur certains films, même des films d'action. Donc pourquoi pas, quoi, vraiment.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une école française du son ?
Il y a indéniablement eu des inventions françaises qui ont été très en avance, même par rapport aux États-Unis. Il y a plein de choses qu'on utilise ici, qu'on n'utilise pas là-bas, et réciproquement d'ailleurs. Mais oui, j'ai le sentiment qu'on a ça en France quand même. On est peut-être des vilains petits canards, mais on a une envie d'innover, ça c'est certain. Un son à la française, c'est difficile à dire. En fait, le langage n'est pas le même déjà. Ça, c'est énorme, c'est très important. Moi, j'en ai mixé des films en langue anglaise. Ce n'est pas du tout la même chose que de mixer du français. Parce que les intonations ne sont pas les mêmes, la prononciation n'est pas les mêmes, la façon de porter sa voix n'est pas la même. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est difficile. Je pense qu'il y a, des différences de méthode qui se traduisent dans les résultats qu'on obtient, c'est sûr. Moi, ce que j'admire chez eux, c'est une grande qualité de ne pas perdre de vue la globalité. Ils ont toujours le sens de la globalité, c'est-à-dire dans un film, l'histoire du son va toujours être très bien maîtrisée. En France, de temps en temps, on est très bon sur les détails, etc., mais on a tendance à perdre un peu de vue l'ensemble. Il y a un film qui m'a particulièrement marqué, c'était Million Dollar Baby, parce que en l'entendant, j'ai entendu dans une bonne salle, je me disais, le son en lui-même n'est pas particulièrement beau. Et puis à chaque fois, je me disais, ah ouais, il y a beaucoup de combats de boxe, donc c'est pas si génial que ça, c'est pas si spectaculaire. Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi c'était comme ça. C'est que le coup fatidique que l'héroïne reçoit, il est monstrueux. Et tout d'un coup, on comprend pourquoi ils ont gardé de la réserve jusque-là. Parce que là, tout d'un coup, ça fait un effet, mais on est paralysé, quoi. Je pense qu'ils ont une façon d'aller à l'essentiel et de saisir ce qui est important tout au long d'un film que souvent, nous, on n'a pas eu jusqu'à maintenant. Maintenant, on commence à y venir.
C'est-à-dire que le mixeur de films américains, par exemple, comme cet exemple, se met à la place du réalisateur, des comédiens, de l'effet que ça donne sur l'écran.
Ouais, c'est-à-dire que c'est pas qu'il se met à la place de chacun de ces personnes, c'est qu'il y a une demande toujours du réalisateur qui va lui dire cet instant-là est particulièrement important, il faut trouver quelque chose. Et après, dans le cas des États-Unis, ça sera au superviseur du son de faire en sorte que ce moment particulièrement important le soit aussi au son. Il va faire attention que tout le long du film, c'est pas la peine de se faire plaisir sur certains moments si ça nuit à ce qui va arriver après. Je pense qu'ils sont très forts pour ça. C'est-à-dire qu'ils ne perdent jamais de vue le récit, en fait. C'est ça qui est important, c'est le récit. Parfois, peut-être en mixage, moi le premier, on a eu peut-être tendance en France à se noyer dans des détails. Du coup, on peut dire que globalement, le son d'un film était... Enfin, vraiment pris dans le détail qu'il était magnifique, mais que parfois on aurait peut-être dû plus prendre en compte le film dans sa totalité et se dire qu'est-ce qui est important dans ce film au son, qu'est-ce qu'il faut dire. Et maintenant je pense qu'on le fait mieux. Et je pense aussi qu'on est bon dans le détail, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on est des... Le mixage c'est vraiment laborieux, mais moi j'aime cet aspect-là. Je crois pas en mixage par exemple, et là on rejoint ce qu'on disait, est-ce qu'on est des artistes ou pas, il n'y a pas de génie, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver sur une console et en un coup de cuillère à peau vous mixez un film comme si c'était le dieu du mixage. C'est pas du tout ça. C'est un travail laborieux et moi j'aime les laborieux parce que c'est l'essence même du cinéma, c'est le travail. C'est de la rigueur et du cœur. Mais voilà, on est bien en France pour ça, je crois. On sait faire des choses de qualité, je pense. On veille toujours à ça.
Bien. Oui, oui, Christophe.
Tu disais tout à l'heure que la télé commence à tirer un petit peu le cinéma. Moi, ça me fait penser à quelque chose. C'est que il y a quelques années, dans la musique, pour faire une analogie avec un domaine avec lequel je suis plus familier, les radios ont commencé à tirer les musiques, les ventes de disques, à les dépasser. Est-ce que vous n'avez pas peur, côté cinéma, de tomber dans les mêmes travers que la musique, à savoir que bah, pour contenter les télés, les diffuseurs et les auditeurs qui ont leur petite installation 5.1 toute neuve, d'avoir à plus compresser, d'avoir à plus rendre le truc spectaculaire et à perdre du coup un peu en essence, en logique. On parlait à l'instant de logique, de vue d'ensemble du truc. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir une demande des producteurs en disant « Ok, c'est bien, mais il faut qu'on essaie de contenter un peu plus le diffuseur et l'auditeur final parce qu'il s'est équipé, parce qu'il faut que ça pète, il faut que ça fasse boum. » Enfin, au détriment de parfois de la qualité du contenu. Par exemple, sur les télés en ce moment, des fois, les dialogues sont à peine intelligibles, tellement c'est compressé. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça dans le cinéma ?
Il y a deux niveaux. Il y a vraiment, encore une fois, le niveau artistique et le niveau technique qui se rejoignent parfois. Mais je suis... Alors, tu as absolument raison en termes artistiques, par exemple. On parle souvent des acteurs avec ce mot horrible, bankable ou pas. C'est vrai que je pense que c'est une calamité pour le cinéma parce que ça rend les producteurs très peu audacieux, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont toujours devoir, ils ne peuvent pas faire autrement puisque c'est les chaînes qui financent le cinéma maintenant. Ils vont devoir choisir des acteurs qui sont censés... apporter un crédit au film et qui sont censés assurer un avenir radieux au film. Ça, c'est terrible. Et c'est là où ils sont forts chez les Américains. C'est très rare quand on voit une série qui marche, qui est forcément des acteurs très connus dedans. Les acteurs le deviennent après. Et c'est l'essence même du cinéma. C'est cette espèce de vivier et de rotation, quoi. C'est-à-dire il faut des acteurs nouveaux pour que le cinéma continue, etc. Et là, on a tendance justement à s'empâter, à prendre... Voilà, je pense qu'on perd de vue que l'essentiel du cinéma, c'est d'avoir des nouveaux comédiens, quoi. Donc ça, c'est un premier point, mais ça ne concerne pas le son. En termes techniques, tu as aussi raison. C'est-à-dire qu'on commence à être très conscient et très concentré sur les problèmes liés à la diffusion télé. Surtout les chaînes, surtout que maintenant, elles commencent à diffuser en 5.1 avec le Dolby E, etc. Il y a une vraie demande et une vraie contrainte pour nous, parce que c'est deux façons d'écouter le son très différentes. Écouter un film en salle, ça n'a rien à voir. Si bonne l'installation soit chez les gens que de l'écouter chez soi. C'est, par exemple, maintenant, on fait le mix cinéma et après, on fait un mix spécial pour le DVD, où on réduit notamment la dynamique, etc. Parce que si on avait une dynamique cinéma telle qu'elle est dans les salles chez soi, c'est inécoutable. On passe son temps à faire plus fort, moins fort, plus fort, moins fort. Là encore, je pense que tout est une affaire de dialogue. C'est-à-dire que je pense que si... Les responsables techniques des chaînes nous entendent, et ça, c'est le cas, il y a un dialogue qui se fait. Et nous, par exemple, si on est sensible à leurs contraintes, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui sont fautifs, hein. Les mixeurs se sont dégagés de ces problèmes très souvent en disant « Ah, de toute façon, la télé, rien à foutre, voilà. »
Oui, en musique, le truc typique, c'est de toute façon, ça va finir en MP3.
Voilà, exactement, voilà. Il faut, de toute façon, c'est l'évolution qui veut ça, il faut qu'on soit conscient de ces problèmes-là.
Ça commence à bouger quand même.
Ça commence à bouger
là,
pas mal.
C'est très, 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 très récent, parce qu'on commence à en entendre parler depuis même pas 5 mois, 4 mois, où on s'aperçoit que le son est très mauvais à la télévision, on s'aperçoit que le son est très mauvais à la radio, et on commence à voir des articles, à lire des articles, montrant cela du doigt, en disant, attention, il faut faire des efforts.
Il faut faire mieux.
Faut faire mieux.
Et c'est très troublant, parce que, par exemple, je pense que si, en tout cas, jusqu'à maintenant, si on demande à quelqu'un qui écoute de la musique sur son iPod chez lui, il est persuadé que quelqu'un qui n'est pas du tout dans le son, il est persuadé que le son qui sort de son iPod en MP3 est meilleur que
le CD.
Égal, au moins égal et sinon meilleur que le CD, que le même titre, que la même musique sur son CD. Je pense qu'on a franchi à un moment donné un seuil de qualité au-delà duquel les gens, pour eux, c'est pareil et que malheureusement l'aspect pratique l'a emporté sur l'aspect qualité.
Ça a été habilement marketé aussi.
Voilà, exactement.
On a dit aux gens que le MP3, c'était pareil que
voilà,
le CD.
Voilà, exactement. Qualité CD. Qualité numérique, ce fameux mot numérique.
Avoir un petit iPod dans la poche avec ses CD, si on nous dit que c'est la même qualité dessus, c'est quand même plus sexy que le vieux baladeur CD. On ne peut pas marcher, sinon ça saute. Il faut avoir les CD dans la poche pour pouvoir écouter autre chose.
Mais le rôle des industries de l'audio est très important là-dedans. Parce que moi, par exemple, je me demande, mais comment jusqu'à maintenant, il y en a 2 ou 3 maximum sites sur lesquels on peut télécharger de la musique en qualité lossless, comme ils appellent ça. C'est-à-dire, et même pourquoi il n'y a pas un site de musique qui fait du discret, c'est-à-dire du qualité CD. Surtout que maintenant, les stockages, la mémoire de stockage évolue à une telle rapidité que c'est sûr que dans 3 ans, on pourra facilement mettre sur l'équivalent d'un petit disque dur de maintenant quasiment toute sa discothèque. Pourquoi et tu as raison de dire ça, c'est dommage que les industries mettent pas à profit toute cette évolution spectaculaire et splendide, mettent pas ça à profit pour la qualité, quoi.
Peut-être que ça viendra des audiophiles dont les pros aiment bien se moquer. Il y a quelques sites audiophiles qui proposent du téléchargement en 24-96 carrément d'œuvres, des enregistrements
classiques. Mais ça reste très marginal.
C'est super marginal, mais d'un autre côté, avec les bandes passantes d'Internet et comme tu disais, les moyens techniques de stockage,
C'est totalement pas, envisageable.
C'est pas idiot, c'est totalement...
Absolument.
Donc on peut être optimiste même pour les films.
Alors pour les films, il y a un truc, et ça c'est indispensable, c'est que le cinéma restera le cinéma. Même les gens qui ont des super installations chez eux reconnaissent qu'ils n'ont pas le même plaisir quand ils vont au cinéma. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans le même lieu, on est dans une salle, il y a un côté cérémonieux, on partage ses sentiments et ses émotions avec les autres gens, même s'il n'y a pas de dialogue, il y a d'autres gens autour, et ça, c'est important. Tant que le cinéma, les salles de cinéma existeront, on continuera à faire des mix pour les salles de cinéma. Après, c'est très important d'arriver à dialoguer avec les différents acteurs, surtout de la diffusion télé, etc., de façon à essayer de ne pas tirer la qualité vers le bas. Mais je crois fondamentalement en l'essence du cinéma, qui est des spectateurs qui se retrouvent pour partager du plaisir dans une salle de cinéma. Tant qu'il y aura des salles de cinéma, déjà, je pense que la qualité sera toujours là. Parce qu'il y a cette dimension spectaculaire et cette dimension de partage entre des gens qui vont voir des films, quoi. J'ai confiance.
Une autre petite question en la musique. Enfin, je fais toujours le comparatif musique-cinéma. En musique, on a beaucoup souffert du téléchargement, les albums qui se retrouvent sur le réseau peer-to-peer. Est-ce qu'en cinéma, on sait que ça existe parce que maintenant tous les films se retrouvent avant même leur sortie officielle. Il y a des gens qui commencent à se passer les DVD de oh, j'ai le dernier machin, le dernier truc en version française, c'est super, la qualité est géniale. Enfin, c'est ce qu'eux disent. Mmh. Est-ce que vous en souffrez ? Est-ce que tu le vois au quotidien ? Est-ce que tu vois qu'il commence à y avoir du stress ? Est-ce que, comme en musique, les réalisateurs commencent à se dire « Bon, pourvu que mon film ne se retrouve pas sur Internet 5 jours ou une semaine ou 10 jours avant et que bah, les gens aillent quand même au cinéma ?» Enfin, est-ce que tu sens que est-ce que c'est latent ? Est-ce que ça influe sur vos conditions de boulot ?
Alors, ça n'influe pas sur nos conditions de travail, ça c'est sûr. Ça existe, hein. Je veux dire, y a effectivement des films qui se retrouvent sur Internet avant même leur sortie. Je pense que c'est encore relativement marginal. Moi, je vois, hein, même sur les newsgroups, etc., tu trouves des films en qualité Blu-ray, c'est-à-dire cette fois, une fois qu'ils sont sortis, hein, bien sûr, mais avec un son plein débit, etc., tu peux télécharger des films de très haute qualité. Là encore, je vais un peu mettre les pieds dans le plat, mais je pense que c'est aussi un énorme déficit des industries, d'une part de la musique et du cinéma, de ne pas proposer une offre aux gens qui soit à la fois raisonnable en termes de prix, de coût et de qualité, mais payante. Il y a le succès d'iTunes, Music Store. Pourquoi il n'y a pas plus de films à télécharger légalement ? Pourquoi ? Pourquoi on en est réduit à la VOD sur CanalSat, etc. Et encore avec un choix de film déplorable.
Et une qualité qui n'est pas si bonne que ça. Pixelise, enfin
c'est, voilà. C'est... Alors qu'on a les moyens techniques, c'est quand même aberrant. Oui. Et je pense que là, la faute, elle vient aussi de l'industrie du cinéma et de la musique qui n'a pas été assez réactive, quoi. Qui a été lente.
Sur ses lauriers et...
Voilà, exactement. On a le CD, on va continuer à vendre. Mais non. Non, il ne faut pas faire ça. C'est pareil pour le film. Il faut proposer aux gens. Sinon, les gens, ben, ils se démerdent. Ils vont se dire, le film, il n'existe pas, ou alors il est super cher. Je m'en fous, je le télécharge. Je l'ai gratos. Après, on ne peut pas dire, ah oui, mais c'est qualité horrible, etc. Oui, mais il existe. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire que plutôt que d'essayer de faire de la répression à tout va, eh ben, il faut proposer aux gens quelque chose, une solution alternative, légale et de qualité. Parce que les gens, ils sont pas cons quand même. Ils savent très bien que, ils voient très bien. Alors là, pour le coup, ils sont plus sensibles à l'image qu'au son. Ils voient très bien qu'un film pourri en DivX, c'est pas la même qualité que quand ils achètent le Blu-ray. Il faut expliquer. Il faut pas juste essayer de leur taper sur les doigts.
Bien, on va s'arrêter là.
Déjà.
Il y a déjà, oui, plus d'une heure. Quel est le calendrier de travail dans ces mois qui vont venir ?
J'ai pas mal de choses. Je finis d'abord le film de Bruno Podalides, qui s'appelle Banc public, qui est remarquable. Après, je vais attaquer le film de Laurent Tuel, qui s'appelle Le Premier Cercle, qui est un polar. Après, j'ai le film de PEF, Pierre-François Martin Laval, qui s'appelle King Guillaume. Après, j'ai le film d'André Téchinet, La fille du RER. Après, j'ai un film qui me tient beaucoup à cœur aussi, qui s'appelle Sound of Noise, qui est un film de deux réalisateurs suédois. Sound of Noise, le titre en dit long sur l'ambition sonore du film. Donc ça va être aussi un grand moment. Le film d'Alain Giraudy. Le roi de l'évasion, ça s'appelle. Le film de Raja Amari. Le film d'Albert Dupontel.
Le film par Cyril Hanouna, ce sera en 2010 ou 2011.
Non, mais
quoi.
Voilà, donc je suis bien occupé et que des beaux films.
Alors, si je prends rendez-vous avec Cyril pour un film, c'est dans combien de temps?
Non, mais après...
2010
Non, pas du tout. Non, mais disons que bon, voilà, j'ai la chance d'être occupé au moins jusqu'en juillet-août et qu'après, des choses se profilent, mais sont pas sûres. De toute façon, en cinéma, les plannings, c'est jamais sûr. Donc, voilà. Non, mais je suis très conscient de la chance que j'ai de travailler sur des films à la fois différents, intéressants, et je suis content d'être occupé, vraiment.
Bien, merci Cyril Holtz d'être venu nous voir. Merci, ça a été vraiment sympathique. Merci à Christophe pour ses questions. Il a enfin parlé. C'est un exploit. Et puis je remercie également Stéphane Reichard, Jacques Hubert et Romain Zemiri pour leurs questions. Alors, ici, Autre Radio, Autre Culture. Eh bien, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Autre radio, autre culture.